Vous écoutez On lit pour vous.
Quand l'histoire se raconte, un livre à la fois. Un texte d'Isabelle Picard, paru le 31 mai 2026 dans La Presse. Parfois, ce sont les œuvres qui nous ouvrent grand la porte vers des pans méconnus de l'histoire. Notre collaboratrice nous fait découvrir comment la littérature a façonné son rapport aux récits autochtones. Juin est le mois national de l'histoire autochtone, amenant son lot d'activités, du festival Kwe aux festivités entourant la Journée nationale des peuples autochtones, en passant par le mois Je lis autochtone, initiative de laquelle je suis la porte-parole. J'ai eu envie de vous faire découvrir des pans méconnus de notre histoire. Il y a quelques années, un ami m'a offert en cadeau un livre magnifique. This Place, 150 Years Retold, une anthologie de nouvelles graphiques, malheureusement offerte qu'en anglais, qui raconte chacune un moment d'histoire, un personnage, une communauté, un drame et même des mondes oubliés. Des histoires de résistance et de résilience pour la plupart. Publié dans le cadre du 150e anniversaire de la création du Canada, ce livre révèle l'histoire d'une toute autre façon. Nous la vivons, nous la voyons, nous la ressentons. Si j'étais éditrice, je proposerais la même chose pour l'histoire autochtone du Québec. Je dis ça comme ça. Il était temps que nous nous racontions ainsi, que nous choisissions ce qu'il est important pour nous de dire. Quelques-uns de ces récits n'ont jamais fait l'histoire. Leurs porteurs les ont transmis oralement, de génération en génération, parfois en chuchotant, pour qu'ils parviennent jusqu'à nous. Parmi les histoires racontées, celle de Francis Peggy, Pegamagabo, de la Première Nation, Wasoxing, le tireur d'élite le plus efficace de l'histoire militaire nord-américaine, à ce qu'on en dit, avec 378 ennemis abattus et 300 captures. Éclaireur redoutable, il est un héros de guerre hautement décoré. Le récit met en évidence un contraste tragique. Après avoir combattu vaillamment pour le Canada en Europe, Francis revient chez lui en 1919 pour s'apercevoir que, malgré les honneurs et les médailles, il n'a toujours aucun droit fondamental et demeure traité comme un citoyen de seconde zone, un mineur aux yeux de l'État. Il est confronté au racisme, à la pauvreté et aux contraintes strictes de la loi sur les Indiens. Sa vie fait l'objet de réglementations appliquées par les puissants agents des Indiens qui contrôlent même sa pension d'ancien combattant. Ce sont ces injustices qui le pousseront à s'engager en politique et à lutter pour les droits des vétérans autochtones. J'ai fouillé un peu après avoir lu cette histoire, question d'en apprendre davantage sur les injustices vécues par les Autochtones. Aussi, parce que des membres Wendat de ma famille ont fait la guerre. J'ai appris qu'à leur retour, le gouvernement canadien offrait aux vétérans des terres et des prêts à faible taux d'intérêt pour y installer des fermes, par exemple. Or, Les Autochtones se voyaient presque systématiquement refuser ces prêts, sous prétexte qu'ils vivaient sur des réserves. Pire encore, le gouvernement canadien utilisait des décrets pour confisquer des portions de terre au sein même des réserves afin de les donner à des vétérans non autochtones. Aussi, pour s'enrôler ou obtenir certains droits et compensations à leur retour, de nombreux soldats indiens inscrits ont été contraints à l'émancipation, soit la perte du statut indien et des droits afférents. Une clause particulièrement cruelle de la loi sur les Indiens indiquait qu'un Autochtone qui s'absentait de sa réserve pendant 4 années consécutives perdait automatiquement son statut. De nombreux soldats partis combattre outre-mer pendant les guerres sont revenus pour se faire dire par l'État canadien qu'ils n'étaient plus considérés comme membres de leur propre nation. Et merci pour votre service. Cette clause particulièrement injuste et discriminatoire n'a été abolie qu'en 1985. Une petite dernière, plus légère celle-là. De nombreux tireurs d'élite et éclaireurs autochtones portaient non pas des bottes d'armée sur les champs de bataille, mais des mocassins, beaucoup plus silencieux. C'est ce que font les livres. Ils ouvrent des portes. Sur des héros, sur le monde, sur l'histoire, dans nos cœurs et nos esprits. S'il n'y avait pas eu Anne Antan Kapesh et son livre « Je suis une maudite sauvagesse », trouvé au hasard de mes recherches et de mes entêtements à la bibliothèque de l'Université Laval à la fin des années 1990, si cet essai autobiographique, ce réquisitoire politique, ce témoignage d'une lucidité percutante écrit bien avant ma naissance et ignoré à l'époque n'avait pas existé, je ne serais probablement pas ici à écrire cette chronique, ce que je fais depuis bientôt 10 ans. Les livres ont ce pouvoir, celui d'entrer en nous, de graver leur histoire à l'intérieur de nous, de marquer nos chairs de leurs empreintes. Combien de fois ai-je déposé un livre après l'avoir achevé pour vouloir repenser ma vie, en tout ou en partie? Combien de fois me suis-je senti en colère ou alors motivé à changer le monde tel qu'il se présente à moi? Ou me suis-je dit qu'il ne fallait plus jamais qu'une telle chose arrive, ou précipité sur mon ordinateur pour approfondir mes recherches, comme avec l'histoire de Peggy? Il y a de très bons livres. Il y a de très bons livres écrits par des Autochtones. En ce mois, je lis Autochtones, je vous invite à vous en procurer un, ou même plusieurs. Découvrir nos histoires, c'est aussi découvrir les vôtres. Bonne lecture et bon mois national de l'histoire autochtone. C'était Quand l'histoire se raconte, un livre à la fois. Un texte d'Isabelle Picard, paru le 31 mai 2026 dans La Presse.
Pression politique sur Santé Québec. Le gouvernement veut foncer malgré une recommandation de mettre fin au projet SIFA pour informatiser la gestion du réseau de la santé. un texte de Nicolas Lachance paru le 14 mai 2026 dans le Journal de Montréal. Sonia Bélanger veut foncer avec la coûteuse transformation informatique de la gestion du ministère de la Santé, même si le gouvernement a en main depuis des mois un avis qui recommande son annulation dans les meilleurs délais. Santé Québec subit beaucoup de pression politique afin de poursuivre le projet malgré la dérive financière, a appris notre bureau parlementaire. Dès février 2025, Québec avait été informé qu'il devait évaluer la possibilité de mettre fin dans les meilleurs délais au coûteux et controversé système d'information des finances et de l'approvisionnement, SIFA, afin de recommencer sur des bases plus solides. Cette recommandation centrale d'un avis du ministère de la Cybersécurité et du Numérique n'a jamais été rendue publique. Les lacunes importantes relevées lors de l'audit et les exigences des appels d'offres publics ont considérablement accru les risques, rendant difficile la possibilité d'un redressement significatif du projet, indique noir sur blanc cet avis transmis au ministre il y a plus d'un an. Malgré cela, les ministres de la Santé, Christian Dubé, puis Sonia Bélanger, n'ont jamais envisagé sérieusement d'arrêter le projet, même après en avoir transféré la gestion à Santé Québec, selon nos sources. Le gouvernement exerçait une forte pression sur la société d'État pour qu'elle poursuive le projet. Même la publication d'un rapport accablant de l'Autorité des marchés publics, AMP, ne semble pas freiner la ministre. Encore récemment, à l'Assemblée nationale, Sonia Bélanger a affirmé qu'il faut faire le virage vers SIFA, soutenant que les systèmes d'information en finance et en approvisionnement du réseau de la santé étaient désuets. Les mots-clés du rapport, là, c'est « renforcer »,« poursuivre »,« informer ». Ce n'est pas d'arrêter, SIFA, a-t-elle dit, ajoutant qu'elle tiendrait compte des recommandations de l'AMP. Si Québec décidait de se retirer du contrat, il devrait verser au minimum une pénalité de 175 millions de dollars à LGS IBM, la même firme informatique liée au fiasco SaaClick. En parallèle, les coûts de développement continuent. Dans un rapport publié la semaine dernière, l'AMP expose publiquement des lacunes de gestion budgétaire et contractuelle qui avaient été communiquées depuis longtemps au gouvernement. Elles mettent en lumière la mauvaise utilisation des fonds publics, l'absence de vérifications adéquates avant la signature du contrat et le désengagement des responsabilités. Notre bureau parlementaire avait révélé dès juin dernier qu'un audit présentait l'initiative informatique comme un gouffre financier. En novembre, Radio-Canada en a dévoilé les grandes lignes, concluant que le ministère de la Santé avait contrevenu à ses obligations en multipliant les erreurs ayant mené à la dérive budgétaire. Notre bureau parlementaire a depuis obtenu ce rapport confidentiel, produit par l'équipe des enquêtes et de l'amélioration continue du ministère du Numérique, qui recommande de recommencer le projet sur des bases plus solides. En octobre dernier, Santé Québec a suspendu le projet, mais l'organisation doit tout de même verser des redevances mensuelles de 723 000 $ à LGS IBM. C'était « Pression politique sur Santé Québec ». Le gouvernement veut foncer malgré une recommandation de mettre fin au projet SIFA pour informatiser la gestion du réseau de la santé. Un texte de Nicolas Lachance paru le 14 mai 2026 dans le Journal de Montréal.
Les 20 ans de BANQ. Un texte de Catherine Lalonde paru le 9 mai 2026 dans Le Devoir. Bibliothèque et Archives nationales du Québec à 20 ans en 2026. Le Devoir fait le point sur les moyens et les ambitions de la société d'État qui semble s'étioler depuis des années, alors même qu'un ambitieux projet de numérisation des bibliothèques publiques se met en branle.
L'érosion silencieuse de la mission de BANQ mise en lumière dans un bilan critique. Fin avril 2005, la Grande Bibliothèque ouvrait pour la première fois ses portes au public. Un an plus tard, en 2006, elle fusionnait avec la Bibliothèque nationale et les Archives nationales. Pour ce 20e anniversaire, les presses de l'Université de Montréal publient BANQ, Vision pour une institution phare, un ouvrage collectif en forme de bilan critique signé par des inconditionnels amoureux de la mission de BANQ et ici, qui aiment bien critique, bien. Il n'existe à peu près pas d'exemple dans le monde d'un autre endroit qui soit à la fois la Bibliothèque nationale d'un pays, à la fois ses archives nationales et à la fois une grande bibliothèque publique qui dessert tout le territoire, rappelait Lise Bissonnette, première présidente-directrice générale de BANQ, lors du lancement en mars 2026 de ce livre. Cette fusion a créé un corps constitué qui a surpris à l'international où on pensait que ça ne pouvait pas fonctionner parce qu'on retrouve à la fois des chercheurs et des enfants dans cette bibliothèque, continuait-elle. Auprès des articles de Madame Bissonnette, d'autres signés par les historiens Gilles Galichan et Jean-François Palomino, par la doyenne des bibliothèques de l'Université McGill, Guylaine Baudry, et les professeurs à l'École de bibliothéconomie de l'Université de Montréal, Carole Couture, archive, et Marie D. Martel, bibliothèque. Ensemble et par article, ils rappellent l'histoire de la constitution de BANQ et analysent ses résultats. Le constat? BANQ n'a plus les moyens de ses missions, nombreuses et à la fois essentielles et ambitieuses. Et ses missions s'étiolent à force de négociations avec des budgets intenables. Carole Couture consacre un chapitre à observer les mouvements du financement étatique de BANQ, chiffres à l'appui. Conclusion, BANQ est dans une longue période de définancement qui ne semble pas près de se terminer. On assiste à des réductions de services, heures d'ouverture, personnel, exposition, au report de projets structurants, ainsi qu'à une fragilisation progressive des fonctions importantes du rayonnement de BANQ, écrit-il. Les effets de cette érosion silencieuse des missions par les coupes budgétaires, comme la nomme à son tour Guylaine Baudry, sont détaillés par les auteurs pour tous les aspects de BANQ par un épluchage des rapports annuels. Ainsi posés côte à côte, ils inquiètent effectivement. Disparition des expositions, réduction des heures de visite, absence d'archivage des réseaux sociaux, réduction des acquisitions, des prêts de documents physiques et des visites. Report du projet d'augmentation des espaces d'entreposage des archives, entre autres. Selon Gilles Galichan et Jean-François Palomino, en rassemblant, en conservant et en diffusant les livres et les documents d'archives, les bibliothèques et les archives nationales incarnent la mémoire du temps. Le poète Gaston Miron disait que la société québécoise souffre souvent d'Alzheimer et le manque d'intérêt de l'État pour sa bibliothèque et ses archives nationales en est un éloquent symptôme. Trop de politiciens considèrent la culture comme un luxe et la bibliothèque comme un divertissement. Qu'en dire, c'est faire. Marie Desmartel, de son côté, signe le chapitre Entre réalité et discours, une décennie de transformation, 2014-2024. Elle y compare les orientations portées par les différents directeurs avec les données tirées de StatBib, les statistiques des bibliothèques publiques du Québec et des rapports annuels. Une manière de croiser données et récits. Les chiffres, ainsi, permettent de suivre sur 10 ans les reculs du présentiel, progression du numérique, cycle d'érosion et de relance des ressources, recomposition de la médiation et du rayonnement, écrit-elle. Et les discours des directeurs rappellent, eux, la manière dont BANQ s'est raconté, virage citoyen et tiers-lieu, Christiane Barbe, tiers-lieu inclusif, Geneviève Pichet, triptyque patrimoine numérique communautaire, Jean-Louis Roy, société apprenante, Marie Grégoire. Autant de visions qui créent un horizon d'attente, explique-t-elle en visio-entrevue. Ce qui peut être très bien. Ce qui me dérange, c'est lorsqu'on a des idées fortes qu'on ne concrétise pas et qu'on continue à les porter alors que les données ne suivent pas les ambitions proclamées. Quand les bottines ne suivent pas les babines, autrement dit. Ce qui se cache dans les écarts. Madame Martel se questionne ainsi sur l'ajout d'un volet éducation apporté par Jean-Louis Roy et repris par Marie Grégoire et sa société apprenante. Ce n'est pas une mauvaise idée de mettre éducation et littératie au cœur des missions, mais ça alourdit un mandat déjà très lourd alors que les ressources et budgets ne suivent pas, donne-t-elle en exemple. Sur une décennie, l'observation de ces écarts riches en enseignement révèle une montée fulgurante du numérique, une fréquentation sur place en retrait, des acquisitions en baisse, des expositions retirées, une médiation éclatée et un suivi lacunaire des publics prioritaires et des effectifs en ressources humaines quasi constants. Pour refonder BANQ, 3 chantiers sont nécessaires, selon elle. D'abord, y mesurer ce qui compte avec des données continues, puis réinvestir la présence et la médiation de proximité, enfin assurer des ressources suffisantes. Finalement, ajoute-t-elle, réaffirmer BANQ comme bibliothèque de recherche nationale. Big is beautiful. Lors du lancement du livre, certains de ses auteurs parlaient de l'espèce d'indifférence des gouvernements des dernières années face à la BANQ, ou d'incompréhension, peut-être, de tout ce à quoi elle peut toucher. Est-ce à cause de son amplitude? On ne peut, rappelle Lise Bissonnette dans les dernières pages de l'ouvrage, la considérer comme un organisme culturel subventionné parmi d'autres. Car elle est aussi l'institution culturelle la plus fréquentée et d'immensément loin parmi toutes au Québec, avec des établissements dans toutes les régions, des collections patrimoniales qui dépassent celles des musées et un réseau numérique qui sert les citoyens, mais aussi des usagers de tout pays. Et qui demeure, comprend-on, sous-exploitée par rapport à tout ce qu'elle peut apporter. C'était « Les 20 ans de BANQ », un texte de Catherine Lalonde paru le 9 mai 2026 dans Le Devoir.
Banque de la Défense. Toronto attaque le caractère francophone de Montréal pour attirer l'institution. Un texte de Guillaume Saint-Pierre, publié le 14 mai 2026 dans le Journal de Québec. La ville de Toronto a choisi une bien curieuse stratégie pour attirer la Banque de la Défense. Attaquer le caractère francophone de Montréal. les deux villes sont en compétition pour attirer cette future institution censée regrouper plusieurs pays alliés de l'OTAN et visant à financer des projets de défense. Dans un cahier de candidature mis en ligne cette semaine, Toronto jette les gants en faisant peu subtilement allusion à un troisième référendum et aux lois linguistiques québécoises. L'environnement d'affaires anglophone de Toronto réduit les frictions opérationnelles pour une institution financière mondiale, lit-on dans une section où on oppose carrément les deux villes. On y ajoute que Toronto jouit d'une stabilité politique sans égale, où règne une simplicité linguistique et opérationnelle, ainsi qu'un environnement réglementaire hautement prévisible, sans exigence de conformité linguistique ou culturelle. Le National Post a été le premier à rapporter cette nouvelle offensive ontarienne. Il semble que les gens derrière la candidature torontoise vivent dans une bulle. Même sur le plan stratégique, miser sur l'unilinguisme de Toronto et réduire le français à une friction opérationnelle constitue des choix discutables. Mark Carney, qui prendra l'ultime décision, sera-t-il sensible à cet argument? Il s'agit ici d'une future institution multilatérale dont la plupart des membres seront originaires d'Europe, où le plurilinguisme est la norme plutôt que l'exception. La Banque de la Défense, de la Sécurité et de la Résilience sera soutenue par le Canada et l'OTAN, dont les deux langues officielles sont l'anglais et le français. En effet, l'OTAN et le Canada possèdent les deux mêmes langues officielles. La candidature de Montréal mise justement sur le fait que sa population est la plus trilingue au pays, à 24 %. Pour une institution majoritairement composée de pays européens et de membres de l'OTAN, le français est un atout considérable, affirme le ministre responsable de la candidature de Montréal, Christopher Skeet. Cette semaine, Doug Ford a juré qu'il n'avait pas l'intention d'attaquer les autres candidatures. « Les Montréalais et les Québécois sont des gens bien », a-t-il lancé en point de presse. Selon la presse, l'Ontario utilise en coulisses l'argument de la souveraineté du Québec pour attirer chez elle la Banque de la Défense. Ce n'est pas la première fois que Doug Ford fait des mamours au Québec tout en essayant par derrière de miner sa crédibilité. L'an dernier, il a ouvertement courtisé les médecins québécois aux grandes dames de François Legault. C'était « Banque de la Défense ». Toronto attaque le caractère francophone de Montréal pour attirer l'institution. Un texte de Guillaume Saint-Pierre, publié le 14 mai 2026 dans le Journal de Québec.